Chapitre 5. La putain de Kenneth. À la suite des pluies d'automne, Partage était presque propre. Le niveau du lagon était plus élevé, les chenaux plus profonds, et alors que la Marietta approchait de son port d'attache, le cœur de ses occupants plus léger que jamais. Pourtant, cette humeur n'avait rien à voir avec la cale pleine de frettes volées. C'était un butin honorable, mais ils avaient bien souvent fait mieux.
C'est qu'on nous respecte maintenant, quand on arrive dans un port. Les gens nous reconnaissent et ils viennent nous accueillir. Je vous ai dit qu'à Petit Port, Madame Ramp nous avait réservé toute sa maison pendant tout un quart, et gratis. Et les filles, elles faisaient pas qu'obéir aux ordres de la mère Mackerel. Elles y allaient de bon cœur, par ça. Tout ce qu'on voulait.
Sorcor laissa sa phrase en suspens, encore stupéfait de leur bonne fortune. Kenneth retint un soupir. Il n'avait entendu l'anecdote qu'une vingtaine de fois auparavant.
« Toutes ces maladies gratis !» fit-il à mi-voix. Mais Sorcor prit sa réflexion pour une plaisanterie et sourit avec affection à son capitaine.
Kenneth détourna la tête et cracha par-dessus bord. En revenant à Sorcor, il parvint à se composer un sourire.
« Avertis les hommes. Rares sont les prophètes qui sont bien traités dans leur pays. »
Le second plissa le front, perplexe. Encore une fois, Kenneth retint un soupir.
« Écoute, même si certains, ailleurs, considèrent que libérer des esclaves et les équiper pour la piraterie, avec en plus une part de notre territoire, est un acte de philanthropie, d'autres, ici, n'y verront que la création de nouveaux rivaux, et ils estimeront de leur devoir de mettre un frein à nos ambitions.
Vous voulez dire qu'ils vont être jaloux et qu'ils vont nous piétiner dès qu'ils en auront l'occasion, c'est ça ?
Kenneth réfléchit un instant.
C'est ça.
Un sourire apparut lentement sur le visage couturé de cicatrices de Sorcor.
Mais capitaine, c'est justement de ça que les hommes ont envie, qu'on essaie de les remettre à leur place.
Hein ?
Et aussi capitaine.
Oui, Sorcor.
Les hommes ont, comme qui dirait, voté, capitaine, et ils ont persuadé ceux qui n'étaient pas d'accord de changer d'avis. Chacun prendra une part d'argent cette fois, et ils vous laisseront vendre toute la cargaison.
Sorcor se gratta vigoureusement la joue.
C'est moi qui ai eu l'idée que ce serait peut-être pas mal d'annoncer à Partage qu'ils avaient tous confiance dans leur capitaine. Attention, ils n'ont pas tous promis d'accepter à chaque fois, mais pour ce coup-ci, c'est à vous de jouer.
Sorcor, s'exclama Kenneth. Et son sourire s'élargit imperceptiblement. « Toutes mes félicitations !»«
Merci, capitaine. Je pensais bien que ça vous ferait plaisir. »
Les deux hommes restèrent ensuite un moment sans rien dire, à regarder la côte approcher. La pluie violente de la veille avait arraché les dernières feuilles brunissantes des arbres caducs, qui n'étaient d'ailleurs pas la majorité. L'essence dominante des collines qui entouraient Partage était impersistant aux feuilles larges et sombres. Plus près de la mer, les terres littorales étaient la propriété de la vigne méduse, de la liane racine, et d'un immense cèdre qui mettait au défi ses propres drageons envasés de pousser à ses pieds. Dans la fraîcheur apportée par la pluie, Partage paraissait presque accueillante. De la fumée montait des cheminées, mêlant son odeur à celle d'iode des algues et de l'eau saumâtre.
« À la maison !»
Kenneth prononça mentalement l'expression. « Non, cela n'allait pas. »«
Au port !»
Sorcor s'écarta brusquement en invectivant un matelot qui ne s'activait pas assez à son gré. Tous le savaient. Le second se montrait extrêmement tatillon quand le navire entrait dans un port. Il ne lui suffisait pas qu'il soit bien amarré. Il fallait en plus que ses voiles soient serrées avec élégance, comme s'il se donnait en spectacle pour les flâneurs de la plage, ce qui était le cas cette fois. Kenneth passa en revue leur capture depuis leur dernier départ de Partage. 7 navires dans la poche, dont 4 esclavagistes. À 5 reprises, ils avaient pourchassé des vives nefs, mais dans ce domaine, la réussite restait un but très lointain. et Kenneth était presque résigné à renoncer à cette partie de son projet. Peut-être parviendrait-il au même résultat simplement en s'appropriant suffisamment de transports d'esclaves. Un soir précédent, Sorcor et lui s'étaient livrés à quelques opérations d'arithmétique accompagnées d'une ou deux chopes de rhum. Ce n'était que spéculation, naturellement, mais le bilan était toujours plaisant. Qu'ils se débrouillent bien ou mal, les quatre navires pirates reverseraient la moitié de leur prise à la Marietta. Kenneth avait confié le commandement de chaque navire capturé à un de ses hommes les plus amarinés, ce qui s'avérait un coup de génie, car désormais, ceux qui demeuraient à bord de la Marietta se démenaient afin de se distinguer assez pour mériter un bateau. Le seul inconvénient était que ce système risquait à long terme de priver son équipage de ses meilleurs éléments. Mais il chassa ce souci de son esprit. À ce moment-là, il posséderait une flottille, non, une flotte de navires pirates, tous liés à lui non seulement par l'argent, mais aussi par la gratitude. Sorcor et lui avaient soigneusement réparti dans l'intérieur, en passant de longues heures à discuter des emplacements où leur équipage serait le mieux accepté en tant que citoyen, et où les prix seraient les plus faciles pour un vaisseau sans expérience. Leur décision était bonne, il en était convaincu. Même ceux des esclaves libérés qui avaient choisi de ne pas le suivre dans une existence de piraterie devaient penser à lui avec reconnaissance et n'en dire que du bien autour d'eux, et ils ne doutaient pas que lorsque le moment viendrait d'exprimer où allait leur fidélité, il se rappellerait qu'il les avait sauvés. Il hocha la tête d'un air avisé. « Roi des îles des pirates !» Oui, c'était réalisable. Les trois navires marchands dont ils s'étaient emparés n'avaient rien de remarquable. L'un d'eux ne tenait même pas bien la mer, et quand les incendies s'étaient intensifiés à son bord, on l'avait laissé sombrer après avoir récupéré la cargaison facilement revendable. Les deux autres navires et leur équipage avaient fait l'objet d'une rançon par le biais des agents habituels de Kenneth. À ce souvenir, il secoua la tête. Prenait-il trop d'assurance? Il devait se déplacer davantage, employer plus de gens, sans quoi, sous peu, des marchands allaient se liguer pour essayer de se venger de lui. Le capitaine du dernier navire était un gaillard hargneux qui avait continué à ruer et à essayer de donner des coups longtemps après avoir été solidement ligoté. Il avait maudit Kenneth et l'avait averti que des récompenses étaient à présent offertes pour sa capture, non seulement à Jamelia, mais jusqu'à Terrilville même. Kenneth l'avait remercié et l'avait laissé poursuivre son voyage vers la Calcède, assis dans l'eau de sa propre cale, enchaîné comme un esclave. Le prisonnier avait retrouvé une certaine politesse quand Kenneth l'avait finalement hissé sur le pont, et le capitaine pirate avait songé qu'il avait toujours sous-estimé les effets de l'obscurité, de l'humidité et des chaînes sur la vaillance d'un homme. Enfin, il n'était jamais trop tard pour apprendre. Ils pénétrèrent dans le port de Partage en bon ordre. Et les hommes débarquèrent comme des personnages royaux en visite, les poches tintant de pièces sonnantes et trébuchantes. Kenneth et Sorcor les suivirent peu après en laissant à bord une poignée de marins triés sur le volet, qui obtiendraient une belle prime pour avoir accepté de remettre leur plaisir à plus tard. Tandis qu'ils longeaient les quais sans prêter attention aux propositions criardes des maquereaux, des putains et des vendeurs de drogue, Kenneth se dit que quel que soit l'œil qui les examinerait, Sorcor et lui, l'un d'eux au moins, paraîtraient avoir du goût. Comme toujours, son second portait toutes sortes de vêtements fins aux couleurs éclatantes. L'écharpe de soie blanche qui lui saignait la taille drapait autrefois les épaules grasses et blanches d'une aristocrate qu'ils avaient rançonnée. La dague ornée de pierres précieuses qui s'y enfonçait appartenait au fils de cette même femme, jeune homme courageux qui n'avait pas senti quand il fallait se rendre, et la chemise de soie jaune avait été taillée sur mesure en Calcède. Étant donné la corpulence de Sorcor, ses épaules musclées, son poitrail de taureau et la vaste surface de tissu flottant qui le couvrait, le second évoquait à Kenneth un navire sous pleine voile. Par contraste, le capitaine avait choisi des couleurs sobres, comptant davantage sur la coupe et la qualité de ses vêtements pour attirer l'œil. Rare à Partage, ceux qui sauraient apprécier l'excellence de la dentelle abondante dont débordaient ses poignets et son col. Mais, malgré leur ignorance, les passants ne pourraient faire autrement que l'admirer. Ses bottes noires qui lui montaient à mi-cuisse brillaient au soleil, tandis que le pantalon serré, le gilet et la veste bleue mettaient en valeur sa musculature et sa minceur tout à la fois. Le fait que le tailleur de ses vêtements eût été un esclave libéré, qui ne lui avait rien demandé en échange du privilège de le servir, ne faisait que rendre Kenita encore plus satisfait de son aspect. Sinker Faldin avait déjà acheté des cargaisons à Kenith, mais jamais il ne lui avait fait autant de platitudes. Comme le capitaine pirate s'en doutait, la rumeur des esclaves affranchis et des navires au pavillon du Corbeau qui naviguait désormais pour son compte avait atteint Partage des semaines plus tôt. L'homme qui les accueillit à la porte de Faldin les conduisit non à son bureau, mais à son petit salon. Pièce exiguë où régnait une atmosphère étouffante et qui ne devait guère servir, comme le constata Kenith après avoir tâté le tissu raide des fauteuils rembourrés. Ils attendirent un moment. Sorcor tambourina nerveusement du bout des doigts sur ses cuisses avant qu'une femme souriante ne leur apporte sur un plateau du vin et de petits biscuits sucrés. Si Kenith ne se trompait pas, il s'agissait de la propre épouse de Faldin. Elle leur fit la révérence sans rien dire et se retira promptement. Quand Faldin lui-même apparut quelques instants après, le parfum trop fort qui l'accompagnait et le lissé de ses cheveux attestaient d'une toilette récente. Comme beaucoup de natifs de Dourja, il avait un faible pour les couleurs vives et les broderies extravagantes, et sa considérable circonférence ainsi parée évoqua une tapisserie murale à Kenith. Les boucles d'oreilles qu'il arborait étaient un complexe entrelac de fils d'or et d'argent. Mentalement, le capitaine ajouta 5% à ce qu'il comptait tirer de leurs frettes. « Vous honorez mon établissement, capitaine Kenith, en venant d'abord faire affaire chez nous, » déclara Faldin en guise de formule d'accueil. « Et n'est-ce pas là votre second, Sinker Sorcor, sur qui j'ai entendu tant de belles histoires ?»« En effet, » fit Kenith, coupant la parole à Sorcor qui commençait à bredouiller une réponse. Il sourit pour remercier son hôte de sa courtoisie. Puis, soudain, sec, il demanda « Vous dites que nous honorons votre établissement ? Comment se fait-il, Sinker Faldin ? N'avons-nous pas déjà fait affaire par le passé ?» L'homme eut un sourire qui allait au-devant des reproches. « Oh, mais alors, si vous me permettez, vous n'étiez qu'un pirate parmi tant d'autres. Aujourd'hui, s'il faut en croire ce qui se raconte, vous êtes Kenith le Libérateur, et le copropriétaire en outre de 4 navires de plus que la dernière fois que je vous ai vu. » Kenith inclina gracieusement la tête. Il constatait avec plaisir que Sorcor avait l'intelligence de se taire et d'observer comment se conduisait ce genre d'affaires. Pour sa part, il attendit sans mot dire l'offre qui n'allait sûrement pas tarder, en quoi il ne se trompait pas. Sinker Faldin prit un moment pour s'installer au fond d'un fauteuil en face des deux marins, puis il s'empara de la bouteille de vin, se versa une généreuse rasade et remplit les verres de ses invités. Il inspira longuement, puis déclara « Avant que nous n'ouvrions les négociations pour une simple cargaison de plus, je vous propose de réfléchir aux bénéfices que nous retirerions tous deux d'une offre que je vous fais, celle d'être toujours votre premier client pour de nombreux frettes. Je vois bien le profit pour vous, si vous étiez assuré d'avoir le premier choix de notre butin, mais j'avoue ne voir guère d'intérêt pour nous dans un tel arrangement. » Sinker Faldin croisa les doigts sur son ventre à la parure extravagante et sourit d'un air bonhomme. « Vous ne voyez pas l'intérêt d'avoir un associé toujours prêt à vous débarrasser de tout ce que vous apporterez ? Vous ne voyez pas l'intérêt d'obtenir toujours le meilleur prix pour vos cargaisons, qu'elles soient considérables ou modestes ? Avec un associé à terre, vous ne seriez plus obligé de tout vendre en l'espace d'un jour ou deux,
Il assurerait l'entreposage de vos marchandises, qu'il ne vendrait qu'au moment où le marché serait le plus haut. Voyez-vous, capitaine Kinnitt, quand vous mouillez dans un port et vendez 100 tonnes lait de rhum de première qualité d'un seul coup, eh bien, la quantité même du produit en rend la qualité subitement courante. Un associé à terre, disposant d'un entrepôt, pourrait garder ces mêmes tonnelées de côté et ne les vendre que petit à petit, ce qui augmenterait leur rareté et par là même leur prix. De plus, un associé à terre ne les négocierait pas tous à partage. Non, avec un petit bateau, il pourrait desservir aussi les îles et les villages proches et vous offrir ainsi de nouveaux marchés. Et une ou deux fois l'an, ce même bateau pourrait se rendre jusqu'à, disons, Terrilville ou Jamelia pour y vendre les articles les plus raffinés de vos prises à des marchands en mesure de vous les payer au meilleur prix.
Sir Cor paraissait un peu trop impressionné, mais Kenneth se retint de lui donner un petit coup de botte. Il aurait eu en plus l'air surpris et perplexe. Le capitaine préféra se laisser aller contre le dossier de son inconfortable fauteuil, comme s'il se détendait.
« C'est de l'économie de base, » dit-il d'un ton désinvolte. « Vos propositions n'ont rien d'exceptionnel, Sinker Faldin. »
L'homme hocha la tête sans se démonter.
« Comme beaucoup de grandes idées, elles ne deviennent exceptionnelles que quand leurs auteurs ont les moyens de les appliquer. »
Il se tut un instant pour réfléchir à ce qu'il allait dire.
« On raconte dans Partage que vous avez des ambitions. » Ambition, ajouterai-je, qui n'ont rien d'exceptionnel, vous désirez prendre le pouvoir parmi nous. Certains prononcent le mot de « roi » en souriant sous cape. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas employé une seule fois ce terme dans ma proposition d'affaires. Cependant, si nous travaillons avec application, l'un de nous pourrait toucher au pouvoir, à la fortune et à l'autorité que ce terme désigne, avec ou sans le titre de roi. Ce genre de mots a tendance à déconcerter les braves gens. Toutefois, je pense que ce n'est pas au titre que vous aspirez, mais à l'état. »
Faldin se radossa, son discours achevé. Le regard de Sir Cor se braqua aussitôt sur Kenneth. Ses yeux écarquillés exprimaient le plus grand effarement. Entendre son capitaine parler de son désir de pouvoir était une chose. Découvrir qu'un marchand respecté prenait ses propos au sérieux en était une autre. Kenneth se passa la langue sur les lèvres et, baissant les yeux, vit son amulette lui adresser un sourire ironique. Le petit visage malicieux lui fit un clin d'œil, puis plissa la bouche comme pour lui enjoindre de se taire. Kenneth dut faire un effort sur lui-même pour s'empêcher de le regarder trop fixement, et s'aperçut à cette occasion qu'il s'était redressé sur son siège. Il se composa une expression impassible et détourna les yeux du bracelet en bois sorcier pour les porter sur Faldin.
Votre proposition va beaucoup plus loin que de simples négociations commerciales.
Associé, avez-vous dit à plus d'une reprise.
Associé, mon cher Sinker Faldin, est un mot pour lequel mon second et moi éprouvons un respect particulier. Jusqu'ici, je ne l'ai étendu qu'à Sir Cor et réciproquement, et nous en avons tous de mesurer la profondeur. L'argent seul ne permet pas d'acheter un associé. »
Il espérait que Sir Cor ne passerait pas à côté de ce petit rappel à leur fidélité mutuelle. Faldin, lui, paraissait un peu inquiet, et Kenneth lui sourit.
« Mais... « nos oreilles vous sont toujours ouvertes, » dit-il avant de se laisser aller contre le dossier de son fauteuil.
Le marchand reprit son souffle et son regard passa tour à tour sur les deux hommes comme s'il essayait de les jauger.
« Je saisis votre plan, messieurs. Vous accumulez non seulement l'argent mais aussi l'influence, qui est beaucoup plus puissante que la loyauté des hommes et le pouvoir des navires. » Mais ce que je vous offre ne s'amasse pas aussi facilement, et seul le temps permet de l'asseoir. »
Il fit une pause théâtrale.
« Je parle de la respectabilité. »
Sir Cor jeta un regard perplexe à Kenneth, qui répondit par un geste infime de la main.
« Ne bouge pas, » lui disait-il. « Ne laisse rien paraître. »«
La respectabilité, »
répéta-t-il avec un soupçon de raillerie dans la voix. Faldine avala sa salive, puis se jeta à l'eau.
« Pour obtenir ce que vous désirez, monsieur, vous devez donner des assurances aux gens. Or, rien n'assure la considération d'une communauté comme la respectabilité. Si vous me permettez cette audace, je vous ferai remarquer que vous n'avez pas de véritable lien à partage, ni maison, ni terre, ni femme, ni famille, aucun lien de sang avec les habitants de cette ville. Autrefois, ces points n'avaient guère d'importance. »
Qu'étions-nous, tous autant que nous étions, sinon des parias, des proscrits, des esclaves en fuite, de petits délinquants cherchant à échapper à la justice, des gibiers de prison, pour dette, insoumission ou vagabondage?
Il attendit que les deux hommes hochent la tête pour marquer leur approbation.
Mais cela se passait il y a une génération ou deux, capitaine Kenneth et Sinker Sir Cor.
Il s'échauffait sur son sujet.
Je suis sûr, messieurs, que vous l'avez constaté aussi bien que moi. Le temps nous change. J'habite dans cette ville depuis 20 ans. Mon épouse y est née, tout comme mes enfants. Si une société digne de ce nom peut s'élever de la boue et des cahutes de partage, nous en sommes les pierres angulaires. Nous et d'autres comme nous, ainsi que ceux qui se seront ralliés à nos familles.
S'il avait donné un signal, il avait échappé à Kenneth. Cependant, la coïncidence était trop belle pour être vraie. À l'instant où l'homme se tut, Sinkera Faldin entra, accompagné de deux jeunes femmes qui portaient des plateaux de fruits, de pain, de viande fumée et de fromage. On distinguait nettement sur leur visage une version féminisée des traits de Faldin. C'étaient ses filles, ses jetons négociables, ses laissez-passer pour la respectabilité. Ce n'étaient pas des putains de partage, et aucune n'osa regarder Kenneth dans les yeux. Mais l'une d'elles adressa un sourire timide à Sir Cor, accompagné d'un coup d'œil à travers ses cils baissés. Elles étaient sans doute vierges, songea Kenneth, et n'avaient pas le droit de mettre le pied dans les rues de partage si maman n'était pas là pour veiller sur elles. Ce n'étaient d'ailleurs pas des laiderons. Le sang de Dourja se retrouvait dans leur peau blanche et leurs cheveux couleur de miel, mais elles avaient les yeux brun clair, en forme d'amande. Avec leurs bras ronds et laiteux, on eût dit deux fruits mûrs et potelés. Elles disposèrent les mets et les boissons pour chacun des hommes et pour leur mère. Sir Cor regardait son assiette, mais se susautait la lèvre inférieure d'un air pensif. Soudain, il releva les yeux et dévisagea franchement une des sœurs, qui rougit aussitôt sans soutenir son regard, mais sans non plus se détourner. La plus jeune des deux filles ne devait pas avoir plus de 15 ans et sa sœur 17. Leur peau douce et unie faisait d'elle le rêve de beaucoup d'hommes qui se verraient transportés dans un monde de douceur où les femmes étaient dociles, savaient se taire et répondaient obligeamment aux besoins de leur mari. Sir Cor partageait sans doute ce rêve, se dit Kenneth. Quelle récompense pouvait être plus inaccessible pour le pirate couturé de cicatrices et couvert de tatouages que l'étreinte empressée d'une vierge à la peau laiteuse? Ce qui était le plus impossible à atteindre était toujours le plus désirable. Faldin feignit de ne pas remarquer le coup d'œil appuyé du second à sa fille et s'exclama
« Ah ! Des rafraîchissements. Laissons un moment de côté nos affaires.
Messieurs, je vous offre l'hospitalité de ma maison.
Vous connaissez déjà, je crois, Sinkera Faldin. Ces deux jeunes filles sont mes filles, Alice et Nerin. »
Chacune salua les invités de la tête, puis alla prendre place entre son père et sa mère.
Et ces deux demoiselles, songea Kenneth, n'était que la première offre que leur faisait partage, et pas obligatoirement la meilleure. Quant à la respectabilité, partage n'était pas seul à pouvoir la fournir.
Il existait d'autres villes pirates sur d'autres îles et des marchands plus riches que Faldin. Inutile de choisir trop vite. Inutile de se presser. Le soleil avait traversé une grande partie du ciel quand Kenith et Sorcor sortirent de la résidence de Sinker Faldin. Le capitaine avait vendu sa cargaison avec profit. Mieux encore, il y était parvenu sans tout à fait s'engager dans une alliance définitive avec Faldin. Après le départ des filles et de l'épouse du financier, Kenith avait adopté comme position que, si on ne pouvait douter de la valeur d'une association commerciale avec Faldin, on ne pouvait pas non plus se montrer insensible au point de précipiter les autres aspects d'une telle alliance. Il avait laissé Faldin avec une impression de sécurité relative. Le financier aurait le droit de manifester sa bonne volonté en proposant la première enchère sur toutes les marchandises que le Marietta rapporterait à partage. L'homme connaissait assez son métier pour ne pas ignorer qu'il s'agissait là d'une mauvaise offre, mais il était assez avisé pour comprendre qu'il n'obtiendrait pas mieux pour le moment. Il l'avait donc accepté avec un sourire pincé.
On aurait cru l'entendre compter sur son abac. De combien devrait-il surpayer nos 3 prochaines cargaisons pour nous assurer de sa bonne volonté ?
Plaisanta Kenith avec un sourire tort.
La plus jeune, c'était Alice ou Nérine ?
Demanda Sorcor d'un ton circonspect.
Ne t'en fais pas pour ça, répondit Kenith durement. Si son nom ne te plaît pas, je suis sûr que Faldin t'autorisera à le changer. Tiens.
Il tendit à Sorcor les bâtons à encoche qu'ils avaient négociés si facilement.
Je te les confie. N'accepte pas moins d'argent que promis avant de donner l'ordre de déchargement. Tu prends le quart ce soir ?
Bien sûr, fit le second d'un ton distrait.
Kenith se demanda s'il devait sourire ou froncer les sourcils. Avec quelle aisance Sorcor pouvait se laisser acheter par une offre de chair fraîche. Kenith se gratta le menton en regardant l'homme s'éloigner à pas pesants sur les quais, dans le crépuscule automnal, puis il secoua légèrement la tête.
Les prostituées,
se dit-il à mi-voix en se félicitant intérieurement.
Avec elles, tout est tellement plus simple.
Le vent s'était levé. L'hiver n'était plus qu'à une nouvelle lune de là ou à quelques jours de voyage en mer vers le nord.
« Je n'ai jamais aimé le froid, »
fit-il pour lui-même.
« Comme tout le monde, » dit une petite voix compatissante, « y compris les putains. »
Lentement, comme si l'amulette était un insecte qui risquait de s'envoler s'il lui faisait peur, Kenith leva son poignet à hauteur de ses yeux. Il jeta un coup d'œil à gauche et à droite dans la rue, puis feignit de renouer un lien de manche.
« Pourquoi t'adresser subitement à moi ?»«
Pardon. » Le petit visage était aussi moqueur que celui de Kenith.
« Je croyais que tu me parlais et je te faisais part de mon assentiment. »
Il ne faut donc pas chercher de sens particulier à tes paroles ?
Le masque de bois sorcier pinça les lèvres comme s'il réfléchissait. « Pas plus que dans les tiennes, » dit-il enfin.
Il lança à l'homme un regard apitoyé.
« Je n'en sais pas plus que toi, mon maître. La seule différence entre nous, c'est que j'avoue plus facilement que toi mon savoir. Essaye donc. Dis tout fort. Mais à long terme, une putain peut revenir plus cher que l'épouse la plus dépensière.
« Quoi ?
Hein ? »
Un vieil homme qui passait se retourna.
« Vous m'avez parlé ? » ?»«
Non, ce n'est rien. »
Le vieillard l'observa de plus près.
« Êtes le capitaine Kenith, non ? De la Marietta ? Celui qui libère des esclaves et qui leur dit de devenir pirate ?»
Son manteau était élimé au poignet et la couture d'une de ses bottes avait lâché, mais il se tenait comme un personnage important.
Kenith avait acquiescé aux 2 premières questions. À la troisième, il répondit
« C'est ce que certains racontent sur moi, en effet. » l'homme fut pris d'une toux sifflante, puis il cracha de côté.
« Eh bien, il y en a aussi qui disent qu'ils aiment pas ça. Ils disent que vous êtes un prétentieux. Trop de pirates, c'est du butin en moins. Et trop de pirates qui s'attaquent au transport d'esclaves, ça peut agacer le gouverneur, qui risquerait bien de nous envoyer ses galères. Retourner les gros marchands, c'est une chose, mon gars. Mais le gouverneur touche sur les ventes d'esclaves. On n'a pas intérêt à gratter au fond des poches d'un type qui place son fric dans des navires de guerre, si vous voyez ce que je veux dire. »
« Je vois, » répondit Kenneth d'un ton guindé. Allait-il le tuer ou non ? Le vieux prit une inspiration sifflante et cracha de nouveau.
« Mais moi, ce que j'en pense, » reprit-il d'une voix encore plus fêlée, « c'est que ça vous fait du pouvoir en plus. Continuez à le titiller, mon gars, et rajoutez-y un ou deux coups pour moi. Les temps qu'on lui montre qu'un homme avec de l'encre bleue sur la figure reste un homme. Je dirais pas ça à n'importe qui dans le coin, hein. Il y en a qui penseraient qu'il faut me fermer le clapet si jamais ils m'entendaient parler comme ça. Mais comme c'est vous, j'ai eu envie de vous le dire. Tous ceux qui se taisent sont pas contre vous. C'est tout. C'est tout. »
Il fut repris d'une quinte de toux. À l'évidence, c'était douloureux. Avec amusement, Kenneth se surprit à fouiller dans sa poche. Il en sortit une pièce d'argent qu'il remit à l'homme. « Essayez de faire passer cette toux avec un peu d'eau-de-vie, monsieur. Et bonne soirée !» Le vieillard regarda la pièce avec stupéfaction, puis il la leva et l'agita derrière Kenneth qui s'en allait à grandes enjambées.
« Je vais boire à votre santé, monsieur, promis !»«
À ma santé !» répéta Kenneth à mi-voix. À présent qu'il avait commencé à se parler à lui-même, il n'avait plus moyen de s'arrêter, apparemment. Peut-être était-ce un effet secondaire de la philanthropie à la sauvette. Les crises de folie ne se produisaient-elles pas par pair ? Il repoussa cette idée. Abuser de la réflexion ne débouchait que sur la mélancolie et le désespoir. Mieux valait de ne pas réfléchir, ressembler à Sorcor qui rêvait sans doute en cet instant même d'une vierge rougissante dans son lit. Il ferait mieux de se payer une femme capable de rougir et de pousser de petits cris gênés de façon convaincante, si c'était tout ce qui l'intéressait. Ainsi songeant, c'est d'un pas distrait qu'il arriva au bordel de Bethel. Il remarqua pourtant le nombre, inattendu pour une soirée aussi froide, de flâneurs devant la porte. Deux d'entre eux étaient les videurs habituels de l'établissement, l'air crâne, un sourire méprisant aux lèvres. Un jour, il se le promit, il ferait de ses sourires des rictus, définitivement. L'un des deux hommes poussa la hardiesse jusqu'à lui adresser un « Bonsoir, Capitaine Kenneth » d'un ton mou. « Bonsoir !» Il mit dans sa réponse un sens très différent qui fit s'esclaffer un des flâneurs d'un rire qui puait l'alcool et qui déclencha les ricanements des autres traînards. « Tas de crétins !» Kenneth monta les marches d'un pas vif en notant que la musique paraissait plus forte que d'habitude et comme plus sèche aussi. À l'intérieur, il supporta les attentions du garçon de service et lui fit négligemment signe qu'il était satisfait, avant de pénétrer dans la salle principale. Là, enfin, la quantité de détails sortant de l'ordinaire le poussa à poser une main légère sur la garde de son épée. Il y avait trop de monde. Les clients ne s'attardaient pas dans cette salle en général. Bethel ne le permettait pas. Si un homme venait s'offrir une prostituée, il pouvait l'emmener dans une chambre privée pour en profiter à loisir. On n'était pas dans un lupanar à matelot. On ne pouvait pas tripoter la marchandise à titre d'essai avant de l'acheter. Bethel dirigeait une maison convenable, discrète et digne. Pourtant, ce soir-là, l'odeur de la sindine imprégnait l'air, et des hommes se vautraient avec insolence dans les fauteuils où les putains exhibaient d'habitude leur charme. Celles qui se trouvaient là étaient debout ou assises sur des genoux masculins. Leur sourire paraissait plus fragile que d'ordinaire, leur rire plus forcé. Et Kenneth observa que leur regard se tournait promptement vers Bethel. Cette fois, la tenancière portait ses cheveux noirs tressés d'anneaux métalliques qui raidissaient sa chevelure et la faisaient scintiller sous les lampes.
Malgré les couches de poudre que portait son visage, une buée de transpiration était visible sur son front et sa lèvre inférieure, et son haleine sentait la sindine plus fort que de coutume.
« Capitaine Kenneth, mon cher !»
s'exclama-t-elle avec sa feinte affection habituelle. Elle se dirigea vers lui, les bras ouverts, comme pour le serrer contre elle, mais, au dernier moment, elle les baissa pour joindre les mains devant elle d'un air joyeux. Ses ongles étaient dorés.
« Attendez donc de voir ce que j'ai pour vous !»«
J'aimerais autant ne pas attendre !» répliqua-t-il d'un ton irrité. Il parcourut la salle des yeux.
« Car je savais que vous veniez, voyez-vous »
poursuivit-elle comme s'il n'avait rien dit.
« Ah, quand la Marietta s'amarre à quai, nous sommes tout de suite au courant. Et ici, à Partage, nous avons entendu tous les récits de vos aventures, mais nous serions naturellement ravis si vous nous faisiez la faveur de nous les raconter vous-même. »
Elle le regarda en battant de ses cils surchargés et ses seins tendirent le tissu de sa robe en dansant.
« Vous connaissez mes dispositions habituelles, » dit Kenneth.
Mais elle s'était déjà saisie de sa main et menaçait de l'engloutir dans les profondeurs de sa poitrine en la serrant affectueusement contre elle.
« Ah, vos dispositions habituelles !» s'exclama-t-elle gaiement. « Faisons fi de l'habituel, mon cher capitaine Kenneth. Ce n'est pas pour l'habituel qu'un homme entre chez Bethel. Non !» « Accompagnez-moi plutôt et voyez ce que je vous ai gardé en réserve. »
Trois hommes au moins dans la salle prêtaient à leur conversation une attention plus soutenue que ne le permettait la bonne éducation. Kenneth remarqua qu'aucun d'entre eux ne paraissait particulièrement réjoui de voir Bethel l'entraîner vers une alcôve éclairée à la bougie, à l'écart de la pièce principale. Prudent mais curieux, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ou bien c'était une nouvelle venue, ou bien elle était occupée lors de ses précédentes visites. En tout cas, extrêmement attirante. Si l'on aimait les femmes menues et à la peau blanche, avec ses grands yeux bleus dans un visage en forme de cœur et aux joues maquillées de rose, sa petite bouche pulpeuse peinte en rouge et ses courts cheveux blonds tout bouclés. Bethel l'avait vêtue de bleu pastel et parée de bijoux dorés. La jeune fille se leva des coussins à glands sur lesquels elle était assise et adressa au capitaine un sourire exquis, inquiet, mais exquis. On lui avait peint les mamelons en rose pour les faire mieux ressortir sous la gaze de sa robe.
« Pour vous, capitaine Kenneth, » ronronna Bethel, « douce comme le miel et jolie comme une poupée. « Et notre plus grande chambre aussi. Voulez-vous qu'on vous serve d'abord votre repas, comme d'habitude ?»
Il sourit à la tenancière. « Oui, s'il vous plaît. Et dans ma chambre habituelle, avec ma fille habituelle. Je ne joue pas à la poupée. Cela ne m'amuse pas. » Il tourna les talons et se dirigea vers l'escalier. Par-dessus son épaule, il jeta
« Que Etta prenne d'abord un bain. Et n'oubliez pas, Bethel, je veux un vin de qualité. »« Mais, capitaine Kenneth !»
protesta la femme. Sa voix jusque-là inquiète avait pris la stridence de l'effroi.
« Je vous en prie, essayez au moins à vos états. Si elle ne vous plaît pas, vous n'aurez rien à payer. »
Kenneth s'était engagé sur les marches.
« Elle ne me plaît pas, je n'ai donc rien à payer. »
Il se sentait une tension douloureuse dans les reins. Il avait vu une lueur réjouie s'allumer dans l'œil des hommes quand il avait commencé à gravir les degrés. Il atteignit le palier et ouvrit la porte qui donnait sur une nouvelle volée d'escaliers plus étroite. Il la franchit et la referma derrière lui, puis, en quelques longues enjambées, parvint au deuxième palier où brûlait une lanterne solitaire. Là, l'escalier montait en colimaçon. Kenneth resta quelques instants immobile, l'oreille tendue. Puis sans bruit, il dégaina son épée et son poignard. Il entendit la porte du bas s'ouvrir et se refermer discrètement. Au son des pas prudents, il compta au moins trois hommes qui s'étaient engagés à sa suite dans les marches.
Il eut un sourire sinistre. Mieux valait que cela se passe ici, dans un espace exigu, où il se trouverait en position surélevée, que dans la noirceur des rues. Avec un peu de chance, il en éliminerait au moins un par surprise. Il n'eut pas longtemps à attendre. Ils étaient trop pressés. À l'instant où le premier passa l'angle de l'escalier, le bout de l'épée de Kenith virevolta sur sa gorge. Ce n'était pas plus compliqué que cela. Kenith le poussa énergiquement en arrière et l'homme s'effondra en gargouillant sur ses acolytes. Alors qu'il reculait en trébuchant dans les marches, Kenith les suivit, éteignit la lanterne au passage et la projeta sur eux, les criblant de gouttes d'huile et de bouts de verre brûlants. Ils se mirent à jurer dans le noir, obligés de reculer sous le poids de leurs camarades agonisants. Kenith porta plusieurs coups d'épée au petit bonheur pour encourager leur retraite, en espérant que le mourant se trouvait au sol au niveau de leurs jambes. Le toucher une deuxième fois serait du gaspillage. Aussi frappa-t-il plus haut, ce qui lui valut la satisfaction d'entendre deux cris de douleur. Il espéra que la cage d'escalier et la porte close les étoufferaient. D'autres hommes l'attendaient dans la chambre, il en était sûr, et il ne voulait pas gâcher leur plaisir. Il entendit ses trois adversaires heurter la porte du bas, et il bondit alors sur eux, enfonçant sa dague et son épée dans tout ce qu'elle rencontrait. Il avait l'avantage, car tout autre que lui-même était un ennemi alors que ses opposants avaient autant de chances dans l'espace restreint et sombre des marches de le frapper que de toucher un allié. Un des hommes, éperdu, cherchait la poignée à tâtons en poussant force jurons. Il finit par la trouver, ouvrit la porte et ses deux camarades agonisants et lui-même s'effondrèrent sur le palier. Au bas des degrés, dans le salon, Bethel levait des yeux horrifiés vers le spectacle.
« Des rats !» lui dit Kenith.
D'un coup vif du bout de l'épée, il s'assura que le dernier homme resterait définitivement à terre.
« Il y a de sales petites bêtes dans vos escaliers. Vous devriez y mettre bon ordre, Bethel. »«
Ils m'ont forcé. J'ai essayé de vous empêcher de monter, vous le comprenez maintenant. »
Il retourna vers les marches, suivi par la voix plaintive de la femme, et ferma la porte derrière lui en espérant qu'elle n'avait pas été audible de la chambre du haut. À pas léger, tel un félin, il remonta les degrés obscurs, l'épée tendue devant lui, et s'arrêta au deuxième palier. Si ceux qui l'attendaient étaient un tant soit peu alarmés, non, s'ils étaient un tant soit peu rusés, ils avaient posté un homme devant la chambre. Il souleva doucement le loquet, reprit ses armes bien en main, puis ouvrit la porte de l'épaule et entra aussi discrètement et en se tenant aussi ramassé que possible. Personne. La porte de sa chambre habituelle était fermée, et on entendait derrière des voix murmurantes, des voix d'hommes. Ils étaient donc au moins deux. L'impatience perçait dans leur ton. Ils avaient sans doute vu Kenith entrer chez Bethel. Pourquoi ne lui avait-il pas tendu un piège en haut des escaliers? Parce qu'ils s'attendaient à ce que leurs acolytes le maîtrisent et le leur apportent sur un plateau. Il resta songeur un moment, puis frappa du poing à la porte.
« On l'a eu !»
cria-t-il d'une voix rauque. Sans réfléchir, un des hommes lui ouvrit. Kenith lui enfonça son poignard dans le ventre, puis tira l'arme vers le haut de toutes ses forces. Elle n'occasionna pas autant de dégâts qu'il l'avait espéré. Pire, elle se prit dans l'ample chemise de sa victime, et Kenith dut la laisser où elle était. Il poussa l'homme en arrière, puis bondit à sa suite pour affronter l'épée de son complice. L'homme engagea le fer sans hésiter, détourna la botte de Kenith, puis porta un coup d'estoc. « Il se bat comme un gentilhomme !» se dit Kenith en écartant l'arme de sa gorge. À voir le style de son adversaire, il éprouvait l'impression d'un sens du maintien et de la mise en scène tout à fait inopportun en l'occurrence. Le pirate jeta un coup d'œil sur le reste de la pièce. Un troisième homme était assis, avec une pose étudiée dans son fauteuil devant le feu. D'une main, il tenait un verre de vin rouge, mais avait conservé assez de prudence pour garder l'autre sur son épée posée sur ses genoux. Etta gisait nu
sur le lit. La femme et la literie étaient éclaboussées de sang.
« Ah, le roi Kenith est venu rendre visite à sa dame, »
fit l'homme assis d'un ton languide. De son verre, il désigna la prostituée.
« Je ne crois pas qu'elle pourra vous recevoir tout de suite. Nos divertissements l'ont un peu indisposée. »
Le discours avait pour but de distraire Kenith et faillit y réussir. Le capitaine se sentit pénétré de douleur. Non, il était furieux. Cette chambre propre et accueillante, la sécurité relative de l'établissement de Bethel, tout cela lui avait été arraché. Plus jamais il ne pourrait se détendre dans cette pièce. Les salauds. Une partie de son esprit enregistrait des cris qui montaient de la rue, toujours plus nombreux. Il lui fallait en terminer rapidement avec son adversaire et engager le combat avec le troisième. Mais, alors qu'il s'apprêtait à utiliser l'avantage que lui conférait sa meilleure allonge, le railleur quitta le fauteuil et se dirigea vers Kenith, l'épée au clair. Celui-là, au moins, n'avait pas la stupidité de mélanger assassinat et bel escrime, et Kenith, lui, n'avait pas la stupidité de se croire la moindre chance contre deux épées. Il regretta le poignard qu'il avait laissé planter dans le premier homme. « C'est trop bête de mourir maintenant, » se dit-il en repoussant une lame du fer de son arme et en parant l'autre du bras, tout en remerciant le ciel de l'épais tissu de sa manche qui absorba la plus grande partie de l'impact. Voyant qu'il ne pouvait plus que se défendre, ses assaillants se mirent à lui porter des coups de taille plutôt que des stocks, et Kenith battit en retraite, sans cesse harcelé par les deux épées, sans avoir le temps de faire d'autres mouvements que de parades et d'esquives. Les deux hommes échangeaient en riant des plaisanteries où il était question de rois, d'esclaves et de putains. Mais Kenith ne les écoutait pas. Il n'en avait pas le loisir. À la moindre distraction, il était mort. Toute son attention était concentrée sur les deux lames et les deux hommes qui les maniaient. « L'heure est venue de choisir, » se dit-il lugubrement. « Vais-je les obliger à me tuer sur le champ, ou bien combattre jusqu'à ce que je sois incapable de me défendre efficacement et les laisser alors jouer au chat et à la souris avec moi ?» Tout comme ses adversaires, il demeura saisi quand le couvre-pied du lit se souleva brusquement et retomba sur un des deux hommes. Tandis qu'il se débattait, le reste de la literie suivit rapidement. Épais oreillers pleins de duvet, draps ondoyants qui se prirent dans les lames des assaillants et leur entravèrent les jambes. L'un d'eux recouvrit un des hommes comme un suaire. « Très opportun !» se dit Kenith en souriant. Il enfonça son épée dans la toile de lin, la retira, et une grande fleur rouge s'épanouit sur le tissu. Etta, jurant et hurlant à tue-tête, pria à plein bras le matelas de plumes et, ainsi muni, se jeta sur le dernier homme. Kenith acheva rapidement l'adversaire qu'il venait de poindre et se retourna. Etta avait attrapé l'autre par les cheveux et lui cognait la tête sur le plancher. Les cris de sa victime étaient étouffés par les couvertures et les draps dont elle tentait en vain de se dégager. Désinvolte, Kenith lui passa son épée à travers le corps à plusieurs reprises, puis, à court de souffle, il la planta là où il estimait que le cœur devait se trouver. Le paquet tressautant sous les couvertures cessa de bouger, mais Etta continua de marteler le plancher avec sa tête.
« Je pense que tu peux cesser maintenant, » fit Kenith.
Elle obéit aussitôt, mais le bruit de coups persista. Tous deux se tournèrent vers les escaliers où l'on entendait des pas précipités. Etta, nue comme la main, accroupie au-dessus de sa victime, avait l'air d'un chat sauvage avec ses dents inconsciemment dénudées. Kenith franchit literie et cadavre mélangés pour aller fermer la porte. Il voulut la claquer, mais le corps du premier homme l'en empêcha. Il se pencha pour le tirer, mais avant qu'il pût repousser la porte, elle s'ouvrit si violemment qu'elle rebondit contre le mur. Kenith la retint avant qu'elle ne heurte son corps en plein visage. Le second était rouge d'avoir couru, tout comme les hommes qui se ruèrent dans la chambre à sa suite.
« Un vieux, » fit-il en haletant, « venu à bord, disait que vous risquiez des ennuis ici. » un bon placement que tu as fait avec cette pièce d'argent, fit une petite voix.
Sorcor se tourna vers Etta, croyant que c'était elle qui avait parlé. Puis, gêné, il baissa les yeux devant la femme nue et meurtrie. Elle se redressa en titubant, jeta un coup d'œil aux hommes qui la dévisageaient, puis se courba, et, à geste maladroit, saisit le coin d'une couverture pour s'en vêtir. Elle révéla ainsi la main et le bras inerte d'un des assaillants.
« Les ennuis, oui, »
fit Kenneth d'un ton sec.
« Quelques-uns. »
Il rengaina son arme et indiqua un corps à terre.
« Passe-moi mon poignard, je te prie. »
Sorcor s'accroupit pour retirer la dague du cadavre.
« Vous aviez raison, »
observa-t-il, bien que ce fût évident.
« Certains disent du mal de nous dans la ville, et il y en a même qui n'aiment pas du tout ce que nous faisons. Ce n'est pas Rey, de la renarde des mers ?»«
Je l'ignore, » répondit Kenneth. « Il n'a pas eu le temps de se présenter. »
Il se baissa et dévoila les autres morts.
« Si, c'était Rey, »
intervint Etta. Sa voix n'était qu'un murmure entre ses lèvres meurtries.
« Je le connaissais assez bien. »
Elle reprit son souffle.
« C'étaient tous des hommes de la renarde des mers. »
Du doigt, elle désigna celui dont elle avait cogné la tête sur le plancher.
« Ça, c'était leur capitaine, Skelt. »
Dans un chuchotement, elle ajouta «
Il répétait qu'ils allaient te montrer qu'un pirate est son propre roi, qu'il n'avait pas besoin de toi et que jamais tu ne les dirigerais.
« Ça fait 6 cadavres en tout !»
dit un des marins de Kenneth.
« Le capitaine a liquidé 6 hommes à lui tout seul !»«
Combien y en avait-il dehors ?» demanda Kenneth en rengainant le poignard que lui avait remis Sorcor.
« 4 !» Ils étaient à 10 contre 1. Courageux, les bougres, non ?
Fit le second avec une lourde ironie.
Kenneth haussa les épaules.
Si je voulais être sûr de la mort de quelqu'un, je ferais la même chose.
Il adressa un petit sourire à Sorcor.
Ça ne les a pas empêchés de rater leur coup. 10 hommes. Faut-il que je fasse peur pour qu'on emploie de tels moyens contre moi ?
Son sourire s'élargit.
« Le pouvoir, Sorcor, on nous voit l'accumuler, et cette tentative d'assassinat est simplement la preuve que nous approchons du but. »
Il prit conscience du regard de ces hommes posés sur lui.
« Et notre équipage avec nous »
ajouta-t-il d'un ton rassurant en hochant la tête dans leur direction. Les 5 pirates qui accompagnaient Sorcor lui rendirent son sourire. Le second rengaina son arme à son tour.
« Bon, et maintenant ?»
demanda-t-il.
Kenneth réfléchit un instant, puis désigna 2 hommes.
« Toi et toi, faites ensemble le tour des tavernes et des bordels. Trouvez nos compagnons de bord et prévenez-les de ce qui s'est passé, mais discrètement. Je pense plus sage que tous dorment sur le Marietta cette nuit, avec une veille solide. C'est en tout cas ce que nous ferons, Sorcor et moi. Mais... seulement après nous être montrés en ville, vivants et en bonne santé. Et je vous avertis tous, je ne veux pas entendre une seule fanfaronnade sur cette histoire. Ce n'était rien, compris ? Pas de quoi fouetter un chat. Que d'autres se chargent de raconter l'anecdote, elle grossira plus vite ainsi.
Les hommes hochèrent la tête en échangeant des sourires appréciateurs.
Toi et toi, vous nous suivez, Sorcor et moi. Pendant que nous nous montrons en public, mais de loin, c'est clair ? Vous surveillerez nos arrières et vous prêterez l'oreille à ce que l'on dira sur nous aux tables voisines. Écoutez et n'oubliez rien, car je vous demanderai un compte-rendu complet.
Les 2 hommes acquiescèrent. Kenneth parcourut la chambre du regard, et il lui semblait oublier un détail, une question qu'il avait eu l'intention de régler. Mais quoi ? Ses yeux tombèrent sur Etta qui le regardait sans rien dire. Un petit rubis scintillait à son oreille.
« Hein, et toi ? » dit-il en désignant le dernier matelot. « Occupe-toi de ma compagne. »
L'homme rougit, puis pâlit.
« Oui, capitaine. Comment, capitaine ?»
Kenneth secoua la tête, agacé.
Il avait affaire, et on le tracassait avec des riens. Eh bien, emmène-la au navire et installe-la dans ma cabine pour plus tard.
Si en ville on considérait Etta comme sa compagne, il fallait la mettre en lieu sûr. Kenneth devait apparaître invulnérable. Il fronça les sourcils.
Était-ce tout ?
Oui.
Etta dégagea le drap du dernier cadavre, et droite comme une reine, elle s'entoura les épaules du tissu ensanglanté. Une dernière fois, Kenneth parcourut la pièce du regard et remarqua les sourires à la fois fiers et incrédules de ces hommes. Même Sorcor avait l'air réjoui.
Pourquoi ?
Ah, la femme ! Ils s'attendaient à ce qu'un tel carnage coupe les appétits charnels de leur capitaine, bien que cela n'eût en rien amoindri sa virilité à leurs yeux. Ce n'était pas la concupiscence qui le poussait à la protéger. Une femme couverte d'ecchymoses ne l'excitait pas. Pourtant, c'était cette insatiabilité qu'ils admiraient en lui.
Eh bien, qu'ils croient ce qu'ils veulent.
Il reporta son regard sur le matelot toujours pâlissant.
Veille à ce qu'on lui fournisse de l'eau chaude pour se baigner, ainsi que de quoi manger, et de quoi se vêtir aussi.
Il devrait sans doute la garder enfermée dans ses quartiers. Dans ce cas, qu'elle soit propre, au moins.
Il se tourna vers Sorcor.
Bon, vous avez vos ordres,
dit le second d'un ton bourru au marin égayé.
Alors, exécution.
Il y eut une série de « Oui, lieutenant !» et les deux coursiers dégringolèrent les escaliers.
L'homme à qui Etta avait été confié traversa la chambre, hésita, l'air embarrassé, puis la prit dans ses bras comme un enfant. À la grande surprise de Kenneth, elle se laissa aller contre sa poitrine avec soulagement. Le capitaine, Sorcor et leurs deux gardes s'engagèrent dans les marches avec sur leurs talons le marin portant Etta.
Bethel les attendait sur le palier. Les mains virevoltant devant elle, elle s'écria
« Oh, vous êtes vivant !»«
Oui, »
répondit Kenneth.
Son souffle à peine repris, elle s'exclama d'un ton furieux
« Vous ne comptez tout de même pas m'enlever, Etta !»«
Si, » lança Kenneth par-dessus son épaule.
« Et tous ces cadavres ?»
lui cria-t-elle d'une voix stridente alors que les hommes s'apprêtaient à sortir dans la rue.
« Vous pouvez les garder, »
répliqua Kenneth. Etta saisit la poignée au passage et claqua bruyamment la porte derrière elle.